entendez? Ouais, c'est bon.
Alors vous, Madame Migaud, vous êtes l'aidante de votre époux, et vous, Madame Mangeni, l'aidante de votre maman.
Maman, voilà.
Et vous avez bénéficié donc du soutien du jardin d'ébène.
Exactement.
Je vous laisse la parole.
Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que... Donc, la maladie, elle a, mon expérience, hein, elle a plusieurs formes. Et à chaque étape, il faut être avec son aider, la personne malade. Vous investissez. Donc, déjà, il faut comprendre la maladie, hein, pour pouvoir anticiper, agir. C'est important. Parce qu'il faut faire face à l'anxiété de la personne, la dépression, j'ai pris des notes, hein, l'agressivité des fois, les hallucinations, les fausses reconnaissances, l'errance la nuit, la communication, parce que quand ils n'arrivent plus à communiquer, ils n'arrivent pas à faire des phrases correctement, et il faut les comprendre, il faut communiquer. Et progressivement, après, vous avez le quotidien, la toilette, l'habillage, l'incontinence qui arrive. Les repas, quand vous sortez avec eux, il faut s'organiser, c'est une grosse organisation. En fait, la vie quotidienne, elle est bouleversée. Et il faut faire avec. Alors, heureusement qu'on a quand même... il y a des choses qu'on peut mettre en place, hein, pour nous aider. Mais des fois, ça reste compliqué parce que si on n'a pas de... famille autour de nous, l'aidant peut facilement aller vers la dépression carrément. Et heureusement qu'on a la plateforme du Jardin des Bêtes qui nous aide quand même. Donc on a des activités sportives, sportive, relaxation, on peut voir la neuropsychologue quand on a un petit souci, mais la famille reste quand même importante, je dis, quand on a quelqu'un qu'on prend en charge au quotidien, parce que le quotidien, il est bouleversé, hein. Vous n'avez plus de vie à un moment donné. Plus de vie sociale, d'ailleurs, vous ne pouvez même plus sortir, vous ne voyez pas d'habits, rien du tout. Tout est compliqué. Et en plus, avec la personne que vous aidez, il faut avoir beaucoup de compassion, beaucoup de patience. Par contre, mon expérience, lui donner beaucoup d'amour. Moi, c'est ma mère. Ben, je lui donne beaucoup d'amour. Je l'embrasse, je la caresse, voilà. Et vous sentez que quand vous avez ces gestes-là pour la personne, elle est beaucoup plus sereine. Parce que ce sont des gens qui sont anxieux quand même, hein, parce que des fois, ils se rendent compte, hein, qu'ils sont malades. Hein, et ils n'arrivent pas à l'exprimer. Je ne sais pas si toi, tu...
Ouais, je ne sais pas sur mon temps. Alors moi, je voulais parler un peu de mon cas. J'ai découvert la maladie de mon mari il y a 7 ans. Mon mari est français, donc il n'a aucune famille ici. Nous sommes arrivés dans les années 70. Et brusquement, je me retrouve avec lui. C'est-à-dire, ça a commencé par des oublis. Et je ne comprenais pas ce qui lui est arrivé. Bon. Donc, je l'ai fait voir par un neurologue qui a fait faire un IRM cérébral, et c'est de là qu'on s'est aperçu qu'il avait des anomalies au niveau de l'hippocampe. Donc le neurologue m'a expliqué ce que c'était. Au départ, c'était modéré, donc il me disait ça peut durer 2, 3, 4, 5 ans, et ensuite ça va dégénérer. Donc je croyais que ça allait toujours rester au stade modéré. Et puis il y a un an, la maladie s'est aggravée, donc il est complètement dépendant maintenant, comme si c'était un enfant d'un an. Donc je me retrouve toute seule, avec pas d'enfants, puisque mes enfants sont en métropole, et il faut faire avec. Donc ce sont des journées vraiment dures, parce que je suis 24 heures sur 24 heures avec lui. Et au départ, une amie m'a parlé du jardin d'ébène. Je ne voulais pas y croire. Je lui ai dit, bon, pourquoi tu veux que j'y aille là? Elle me dit, si, si, vas-y, tu verras, tu vas trouver beaucoup d'aide. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pense que ça fait 3 ans, 2 ans à peu près, je ne sais pas, que je suis au jardin d'ébène. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé une de grandes aides qui m'a accompagnée, qui me permettent justement de supporter cet état de l'état de mon mari. Donc, je participe beaucoup aux ateliers. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois la neuropsychologue. Et puis, voilà. Et là, maintenant, j'ai dû mettre autour de moi des aides, toujours avec le SAD d'Ébène. Donc, j'ai des auxiliaires de vie qui viennent 4 fois par semaine, 5 heures par jour, pour m'aider. Et donc, ça me permet de faire autre chose. Je ne dirais pas de prendre du répit, parce que ces heures me permettent soit de faire autre chose, de prendre mes rendez-vous, parce que des fois, j'ai des rendez-vous avec les docteurs, avec des administrations. Et ça m'aide. 5 heures, ça m'aide. Mais après, je me retrouve, donc ces aides sont là jusqu'à 14 heures. Et après, je me retrouve tout seul avec lui, la nuit jusqu'au lendemain. Donc, c'est très, très, très dur. Il faut avoir du courage. Hein. Il faut pouvoir donner de l'amour à ces personnes. Bon, j'essaie tant que possible de garder mon calme, mais ce n'est pas si facile que ça, parce que quand on se retrouve avec quelqu'un, parce que là, maintenant, c'est le refus total. Il refuse de se doucher, il refuse de manger, il refuse de boire. Et on est là, il faut l'assister, bon, c'est vrai. Des fois, on perd courage, et puis moi, je sais que parfois, je deviens nerveuse. Et ce n'est pas l'idéal pour lui. Donc, je fais avec, et puis, enfin, je tiens bon. Je tiens bon. Je tiens bon. C'est une maladie que je ne comprends pas, parce que au départ, je vais sur les sites internet, je regarde les informations sur la maladie d'Alzheimer, et on dit ce sont des gens, il faut faire beaucoup d'activités physiques, etc. Mon mari, c'est quelqu'un qui était un grand sportif. Jeune, il a fait du foot. Après, à 40 ans, il a fait du vélo. Et ensuite, il a laissé tomber à 50 ans et s'est mis à faire du marathon. Du marathon jusqu'à 69 ans. Alors, je ne comprends pas comment lui, il a pu développer cette maladie. Et là, j'ai appris ce soir que le syndrome d'apnée du sommeil pourrait être aussi responsable de ces troubles cognitifs. Et là, je me rends compte, je pourrais dire que c'est peut-être vrai, parce qu'avant qu'il soit tombé malade, il faisait de l'apnée du sommeil. Donc, il portait un appareil. Mais apparemment qu'il n'a pas fait grand-chose pour lui, parce que 2 ans après, c'est là que j'ai découvert son problème. Alors, je pense que, vu que c'est pas les activités, il faisait des activités physiques, c'est quelqu'un qui aimait la nature. Donc maintenant, je me dis, c'est peut-être l'apnée du sommeil qui a peut-être provoqué ces troubles. C'est la seule raison que je vois. Voilà. Donc, je peux dire que grâce au jardin d'Ébène, je survis. Je survis parce que c'est dur. C'est dur. Donc, ça fait 3 ans que je ne prends plus de vacances. Je ne vais plus dans les soirées avec mes amis. Je m'occupe entièrement de lui. Et j'ai demandé au jardin, donc à l'EHPAD Ébène, puisqu'il y a une structure qui s'est mise en place, Vivacaz. Je me suis inscrite. Et là, j'ai demandé un hébergement temporaire d'un mois. Au mois d'août, ça a été accordé. Donc, cet hébergement me permettra peut-être de souffler un peu, de respirer. Puis voilà, mais c'est vrai que j'invite les gens à s'approcher du jardin d'Ébène, parce qu'ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les aidants. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci.
Peut-être une réaction des médecins sur ces témoignages qui sont, je crois, très représentatifs des aidants. Sur l'épuisement notamment.
Alors, merci pour ces deux interventions. Ça reflète le vécu donc des aidants, l'autre versant donc de cette pathologie. Comme on l'a dit, si c'est pas un malade, c'est un aidant qui est là, et ça impacte de façon exponentielle la famille tout autour. Vous êtes une, mais c'est toute une famille qui est impliquée dans cette pathologie. Par rapport à ce que vous avez exprimé, c'est à juste titre ce qu'on appelle le fardeau de l'aidant. Malheureusement, cette expérience, cette pathologie constitue une double peine pour la personne qui est en train de prendre en charge un proche, donc une personne à laquelle elle a donc tout ce volet émotionnel, et à laquelle se rajoute donc toute cette responsabilité de voir la métamorphose qui va avoir lieu au cours de cette maladie. Donc on en arrive à un stade où on reconnaît même pas la personne qu'on est en train de prendre en charge. Et ça opère aussi des modifications sur les dents. Alors, il y a le fardeau, mais il y a aussi, c'est aussi une expérience qui pourrait aussi faire évoluer les dents dans sa perception donc de sa propre personne, du monde. C'est aussi ça, l'expérience de la maladie d'Alzheimer, et se faire aider, c'est aussi accepter ce fardeau, l'assumer, et accepter aussi de se faire aider. Et heureusement qu'il y a des structures, comme vous l'aviez cité, les structures donc, comme les Jardins de l'Ébène ou d'autres structures, pour orienter. Donc nous, dans l'hôpital, c'est plus, on est plus une structure de diagnostic, de un volet de la prise en charge thérapeutique, mais il y a aussi tout ce volet, et on a vu les exemples pour aider les aidants dans cette expérience de la maladie d'Alzheimer. Mm-hmm. Merci pour tout ce que vous faites, pour merci tout cet effort que vous déployez pour être là pour vos proches. Heureusement qu'il y a toutes ces structures pour vous soutenir à traverser cette épreuve. Merci. Merci.
Merci. Oui, je pourrais rajouter au propos du professeur Nasri, le fardeau des aidants est une réalité et qui aboutit à quelque chose que nous connaissons, nous, dans notre métier depuis très nombreuses années, et qui aujourd'hui est un terme qui est devenu, au fond, assez fréquemment utilisé dans le monde du travail, qui est le burn-out des aidants. On parle de ça depuis très longtemps dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Le burn-out des aidants, qui définit burn-out en anglais, ça veut dire se consumer. C'est une maladie qui finit par consumer les aidants physiquement et psychologiquement, tellement c'est lourd. Et donc, il faut être très conscient de ça. Et ce qui est important, c'est de prévenir ce burn-out par un certain nombre d'attitudes. La première, c'est de connaître ses limites. Parce que il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal. Dans nos sociétés, on a tendance à dire qu'on abandonne les gens les plus faibles, les personnes âgées. Mais moi, je peux vous dire qu'en tant que professionnel de la maladie d'Alzheimer, ce que je vois aussi, c'est beaucoup d'aidants qui vont trop loin dans la prise en charge. Ils finissent par s'épuiser parce qu'ils ne connaissent pas leurs limites. Alors parfois, c'est parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leurs limites. Ils sont dans une attitude où ils se disent « je me dois d'être auprès de ma mère, de mon mari, jusqu'au bout ». En réalité, ils oublient une chose, c'est que en fait, ils forment un couple indissociable. Et si on a un des deux qui tombe malade, l'autre va suivre. Et surtout là, quand c'est les dents. Donc parfois, ils sont dans cette logique-là, qui est qu'ils ne veulent pas accepter de l'aide ou ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont allés trop loin. Les enfants parfois se battent auprès d'eux pour leur dire, mais maman, arrête, fais-toi aider. Vraiment, on sait que tu as fait le maximum. Et parfois, ils résistent. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut connaître ses limites. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est il faut connaître les ressources dont on dispose. Et ça, c'est très important aussi. Quelles sont les ressources au niveau le plus proche, les voisins, la famille, les amis, et puis ensuite au niveau des professionnels qui sont mis à ma disposition. Et enfin, qu'est-ce que je peux faire avec justement cet écosystème qui est autour de moi? Et c'est là où eh bien, les services de répit, qui sont aussi bien, eh bien ceux qu'on a vus à l'ébène et qui ont été très bien décrits par vous, mesdames, où à un moment donné, il faut être capable de dire stop, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide. Et cette aide peut être apportée par du personnel, mais aussi par des moments de répit qui peuvent être quotidiens ou éventuellement des séjours de répit dans des établissements où pendant un mois, on place le proche. Pendant ce temps-là, on se repose. Je vous conseille de choisir un mois minimum. Parce que parfois on se sent un peu coupable, on dit ben, on va faire ça 15 jours. 15 jours, ça suffit absolument pas. D'abord, ce n'est pas terrible parce que le patient n'a pas le temps de s'adapter, que déjà il sort. Et vous n'avez pas le temps de vous reposer non plus. Donc, il faut que ça dure un mois. Et puis, il y a aussi des expériences tout à fait passionnantes, comme eh bien, ces vacances à deux. En métropole, on met en place aussi des expériences dites de baluchonnage, où le patient reste chez lui et c'est un professionnel qui vient chez le patient s'occuper de lui, comme eh bien, l'aidant qui, lui, pendant ce temps, va aller se reposer. Tout ça existe et où est à créer, et c'est à vous de le faire, avec l'aide des associations, hein, notamment France Alzheimer, qui, à mon avis, ne demande que ça, c'est justement de l'aide eh bien, des proches des malades pour monter des projets, des programmes qui pourront venir en aide aux aidants. Les aidants ont aussi besoin d'être aidés psychologiquement par des groupes de parole. Ça, c'est excellent. Je pense que ça existe, n'est-ce pas? Il faut le faire, c'est très important. Des groupes de parole où on se retrouve entre soi, aidants, et on partage ses expériences. C'est utile et ça permet justement de se soulager un peu. Hein, on connaît cet adage. Quand je me compare, non, quand je me regarde, non, c'est quand je me regarde, non, quand je me compare, je me désole, et quand je me regarde, je me console. Non, c'est l'inverse. Bon, c'est l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Hein, quand je me compare, je me console. Hein, c'est ça. Et c'est à ça que servent aussi les groupes de parole. Hein. Voilà. Donc, les aidants, c'est un on va dire, un des aspects de cette pathologie tout à fait particulière. Et il est indispensable aussi de les aider. Aider les aidants.